Salut à tous et à toutes, c'est Queen. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Mangue Meuf. Et oui, 9 mois après le dernier, je crois. Pour lequel je suis obligée de faire une petite introduction. Et oui, parce que s'il y a eu 9 mois d'écart entre les deux derniers épisodes, c'est pas pour rien. Ce qui s'est passé, c'est plutôt cool, c'est qu'on a enregistré la dernière fois à l'Indie Game Lyon. Et c'était du coup la première fois qu'on faisait un épisode où toutes les intervenantes étaient sur place. Et forcément, est arrivé ce qui devait arriver, bah on a trop kiffé, tout simplement. Et je me suis dit que c'était quand même dommage de faire que des épisodes sur Twitch, et que ça valait vraiment, vraiment la peine de faire des épisodes en présentiel. Le problème, c'est que tout ça, ça coûte des sous-sous, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est là que vous intervenez. Donc à la base, moi, les épisodes, je les finançais avec le YouTube d'Osmosis. Vu qu'on faisait plus de longues vidéos, bah finalement ça compensait un petit peu. Sauf que, surprise motherfucker, quelques temps après, YouTube a fermé. Bon, vu que Marwan et moi on travaille, à la base, on s'est dit, on va pas relancer de financement participatif pour Osmosis, on produit pas assez, entre guillemets, et nous on a du taf, donc on va laisser les gens, dont c'est une priorité financière, passer devant et demander de l'argent. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait quelques mois déjà que je cherche à relancer le podcast, je réalise que les frais de location et du matos et de la salle, eh ben, ça demande un peu d'investissement que je n'ai pas forcément toute seule. Donc j'ai ouvert une page Patreon pour que vous puissiez participer, si vous le souhaitez, à la conception des épisodes. Participer financièrement. Ça se passe sur patreon.com/emongmeuf le podcast. Ouais, j'ai pas trouvé plus long, faudrait que je vois pour changer ce URL. Et pour quelques euros par mois, vous pouvez m'aider à financer les épisodes, c'est-à-dire que plus on a de sous, plus il y aura d'épisodes, évidemment. Sachant qu'il y aura des épisodes lyonnais, des épisodes parisiens et peut-être des épisodes en plus, parce que actuellement les emongmeufs sont essentiellement basés à Lyon et à Paris, tout simplement. Et moi, je fais le voyage souvent entre les deux. Normalement, si tu suis un petit peu mon actu, tu sais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, autre chose! Cet épisode est parfait pour vous prouver qu'on a besoin d'argent. Parce que j'ai loué le matos le moins cher, du coup, avec mes petits sous-sous à moi, avec ma petite tirelire. Et il se trouve que, je sais pas pourquoi, j'ai un micro. Mon micro ne m'a absolument pas enregistré. Et donc le son de ma voix a été pris par l'enregistreur que j'utilisais, heureusement qu'il était là. Donc il y a une énorme différence de qualité entre les voix de Kit et Ditz et la mienne. J'ai fait ce que j'ai pu pour rattraper ça en poste, comme on dit, mais ça n'a pas été facile, donc n'hésitez pas à donner plus de sous pour que ma voix cristalline puisse enrober vos oreilles de plaisir à chaque épisode, évidemment. Parce que là, vraiment, il y a des moments que j'ai juste coupé parce que c'était trop douloureux, voilà. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre futur soutien. En attendant, moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode des Emongue Meuf qui va vous parler des Game of the Year. Salut!
Bon, vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre.
Comme dans ces vieux jeux vidéo!
C'est impossible que ce soit Mad Max.
Ouais, les filles jouent pas aux jeux vidéo d'habitude.
Je vous interdis de me vénérer! Je ne vous appartiens pas!
Bah bonsoir à toutes et à tous, salut les meufs et les zombies, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Among Meuf. Vous n'avez pas entendu parler depuis février dernier, on est en novembre, on a failli enregistrer en décembre, il y a eu plein de péripéties, mais on y est arrivé, il y a même eu des péripéties dans l'heure. Mais je suis néanmoins très heureuse d'être accompagnée aujourd'hui de Ditz et Kit. Comment ça va les meufs et les zombies?
Hein, zombies, je trouve que c'est pas mal pour mon état,
zombies. Elle n'est bouchée, alors ça...
Tout à fait. Vous allez entendre ma magnifique voix défoncée.
Mais oui, ça va.
Alors, si des fois, vous avez l'impression qu'on phase en nous écoutant, imaginez-nous en train de nous pencher sur un récepteur à micro et de regarder s'il s'allume correctement ou pas. Et voilà, là, par exemple, ça s'allume. Je suis très heureuse de savoir que quand je parle, ça enregistre.
Moi, ça me rappelle mes plus sombres périodes de l'Internet quand j'avais des problèmes de box.
Bah déjà, il y avait peut-être de vieux modems, hein, le...
Oui.
Et avec que... les antennes, oui.
Surtout, je me rappelle, j'ai eu une période où j'avais la box dans ma chambre et on n'avait pas internet. Et tous les matins, je me réveillais, je regardais s'il y avait la loupiote verte qui était allumée.
Et des fois, ouais, elle faiblissait, je sais.
Ouais, bah, ouais. Mais voilà, là, ça me rappelle exactement la même chose. Faut surveiller les loupiotes, quoi.
On surveille les loupiotes, mais on va essayer d'avoir une conversation normale. Ouais,
c'est
ça.
Yes.
Ça va être insupportable à écouter. C'est pas grave, vous avez cliqué sur lecture et vous êtes foutus.
Mais quoi qu'il en soit, on est en novembre et qui dit fin de l'année dit bilan de l'industrie du jeu vidéo, etc., etc., bilan des joueurs et joueuses. Et on voulait discuter un peu aujourd'hui de la notion de gotchi.
Le gotchi, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que chaque année, oui, on a décidé de faire ça en mode ange de la télé-réalité. On a beaucoup souffert à mettre en place cet enregistrement, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que chaque année, Geoff Kelly nous propose de voter pour le meilleur jeu vidéo de l'année. Et on voulait revenir un peu sur ça, donner notre avis, voire faire la liste un peu des jeux qui ont été nommés par Geoff donc au travers des Game Awards. Est-ce que je commence par vous demander si vous avez un gotchi cette année ?
Je commence ?
Vas-y.
Moi j'ai un gotchi. On en rediscutera du coup, mais c'est vrai que mon gotchi, bah, c'est quand même un jeu qui est sorti cette année, qui s'appelle Dredge.
Oh oui, j'en ai entendu parler de Dredge.
Ouais, Dredge, qui est un jeu Lovecraftien de pêche. Alors, un truc à savoir, c'est que je déteste la pêche, que ce soit dans la vraie vie ou dans les jeux vidéo, vraiment, ça me saoule, voilà. Non, je trouve ça très lent, très relou, pas très... Enfin, bon, bref. Et là, Dredge est apparu. Et je me dis
que la pêche, c'est probablement un des trucs les moins vidéoludiques. Ça doit être hyper dur à gamifier, c'est peut-être pour ça que ça nous casse le...
Ouais, mais... Tu vois, ils en foutent partout.
Ouais.
Je comprends pas pourquoi. Enfin, genre, Nier Automata, t'as une mécanique de pêche qui sert à pas grand-chose. Et bah, t'as plein de jeux comme ça qui ont des mécaniques de pêche. Et t'es là en mode, bah, c'est juste un mini-jeu nul et je perds mon temps. Et pourquoi ?
C'est un peu des lootbox, la pêche.
C'est vrai, il y a un peu de ça. Ouais, carrément.
Il y a un petit peu de ça. Puis il y a tout le côté mérite parce que tu passes longtemps à faire ta pêche et pouf, tu peux rien. Voilà, bref. Mais Dredge, c'est pas ça. Donc,
tant mieux.
C'est plus un jeu d'explo, il me semble, non ?
Alors, c'est ça que j'ai aimé dans Dredge, c'est que c'est de l'exploration parce qu'on a plusieurs zones, plusieurs biomes même, on pourrait peut-être dire. Chaque zone ayant un peu son animal mythique, on va dire, en quelque sorte.
Comme les Pokémon.
Ouais, mais tu peux pas l'attraper.
Ah.
Non. Mais ouais, il y a ce côté où voilà, tu vas aller dans une zone et tu sais qu'il y aura des poissons particuliers dans cette zone-là. Et comme c'est un jeu Lovecraftien, il y a aussi le fait que les poissons, des fois, ils vont être bizarres. Et ça, j'aime bien. Ah,
c'est pas dans ce jeu où des fois tu vas vers genre une lumière ou une île, puis en fait après, maintenant, il y avait rien, c'était dans ta tête depuis le début. Pas un peu avec ta perception.
Vite fait. Alors je me rappelle plus s'il y a des choses qui disparaissent, mais par contre clairement il y a des choses qui veulent te tuer. Hein. Voilà, il y a le côté aussi où tu peux pas rester toute la journée, toute la nuit. Tu peux pas rester toute la nuit à pêcher parce qu'en fait littéralement ton personnage devient fou et commence à se faire attaquer.
Ne pêchez pas la nuit.
Non.
Ça me fait penser aux mecs qui sont sur les bords du Rhône.
Oui, qui pêchent la nuit. Je les ai pas vus ceux-là. Et puis, il y a des requins. Ouais, moi, je kiffe les requins.
Voilà, les requins !
Oui ! Voilà, c'est mon gotchi parce que l'exploration, le côté Lovecraft, j'ai trop kiffé, en fait. Et puis, c'est pas un jeu très long, aussi. Et voilà, enfin, il y a beaucoup de discussions sur ça. On a tout le temps aux jeux vidéo. Et voilà, j'ai kiffé. Néanmoins, ils prévoient des mises à jour. Là, ils ont sorti un DLC il y a une semaine, je crois. Ouais.
Le DLC Nouveau Poisson.
Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ils ont sorti un nouveau biome dans la glace.
Ah.
Il fait froid. Et je n'y ai pas joué, donc je sais pas ce qu'il vaut, mais voilà, c'est un DLC à 5€, quoi. 6€.
Ah, ça va. Et le jeu, il est à combien de base ?
Le jeu, il est à combien ? Ah, ça, c'est...
Bah, il est pas très cher.
Oui, et ben ça, je vais le dire. Bien sûr.
Je le sais.
Par cœur.
Je le sais par cœur. Et évidemment. Là, je ne fais que voilà combler pour un ordinateur qui veut des mises à jour.
C'est tes onglets, ça ?
Non, pas du tout.
Oh mon Dieu, c'est vérité DH onglets.
Oui, bah peut-être que j'ai beaucoup d'onglets, mais c'est... Voilà,
je comprends. Franchement,
c'est horrible.
Comment ça, c'est horrible ? Toi, t'as pas
beaucoup d'onglets. Moi, je stresse quand j'en ai plus de 3 d'ouverts. Ah, je suis obligée de les fermer.
Ah, moi, je t'imaginais comme quelqu'un ayant 50 onglets, mais...
Je supporte pas ça.
Et donc, voilà, le jeu, grâce à mes multiples onglets, me permet de dire qu'il est actuellement à 18€ car il est en promotion. Mais sinon, il est à 25€.
Ah, et il est noté comme similaire à Blasphemous sur Steam.
What?
Ah non, il est dans un bundle avec Blasphemous.
Ouais, il est dans... Ouais. Ah. Oui, parce que j'allais dire,
j'allais rien dire, à voir. Niveau gameplay, ça a pas l'air de se ressembler du tout, mais...
Niveau gameplay, niveau DA, y a rien à voir.
Et fais voir, remonte un peu dans la description.
Ah.
C'est les Steam Awards.
C'est les Steam Awards. Ah oui, voilà, parce que des GOTY, il y en a dans tous les sens, mais ça, on va en reparler.
Ah oui.
Kit, est-ce que tu as eu un GOTY, toi, cette année?
Alors...
Je la refais. Est-ce que t'as eu un Gotchi cette année?
Alors, moi, c'est pas trop de Gotchi, parce que j'ai pas eu le temps de jouer aux jeux vidéo.
C'est dur.
Non, en fait, j'ai passé une année particulière et j'ai beaucoup repris cinéma, séries, animation. Et du coup, j'ai moins joué aux jeux, aussi parce que j'ai moins les thunes d'acheter des nouveaux jeux. Et donc, j'ai beaucoup lurqué sur Lies of P, évidemment, en tant qu'obsédée de Bloodborne. Et surtout, ben, je vais faire chier tout le monde parce que mon GOTY de cette année, c'est un jeu qui est sorti en 2010, qui s'appelle Danganronpa Trigger Happy Havoc. Vous l'aurez deviné, c'est japonais, c'est un nom d'isekai, comme je suis un pois chiche réincarné dans tel univers. Mais c'est pas du tout un isekai, donc c'est pas très connu en Occident, Danganronpa, parce que faut un petit peu s'intéresser à toute cette gamme de jeux qui s'appelle des visual novels, donc qui sont des histoires interactives. Je dirais que le plus célèbre chez nous, ça doit être Ace Attorney à l'heure actuelle, avec les compilations qui sont sorties. Et en fait, Danganronpa, c'est hyper sadique, et moi j'adore. vous prenez une bande de lycéens et lycéennes qui sont ultra doués dans un domaine. Donc par exemple, vous allez avoir l'ultime nageuse, l'ultime pratiquante d'arts martiaux. Et vous allez jouer Makoto, qui est un pauvre pekno qui est arrivé là parce que il est considéré ultime chanceux de l'académie, c'est-à-dire que c'est un mec random qui a été tiré au sort. Et sauf qu'en fait, là où tout devait bien se passer, tu devais faire ta rentrée à l'école tranquille, tu te retrouves enfermé par un nounours qui te dit que si t'as envie de sortir de cette école, il faut tuer quelqu'un et ne pas te faire attraper par les autres.
Ah oui, donc il est même pas ultime chanceux, ultime loser finalement.
Ouais, ouais, tu remarques au fur et à mesure que c'est plutôt l'ultime loser, il a la pire piole, genre sa porte de salle de bain est pétée, du coup il peut pas accéder à sa salle de bain pendant le début du jeu, enfin voilà, c'est ultimate chanceux Makoto, n'est-ce pas? Et en fait, du coup, tout le principe du jeu, ça va être justement de voir comment les gens vont s'entraider ou pas pendant cette épreuve. Et surtout, ce que moi j'ai trouvé super intéressant, c'est que j'aime beaucoup les jeux d'enquête. Et en fait, t'as toute une partie, un peu comme dans Ace Attorney, où tu enquêtes, donc va y avoir un meurtre et tu vas récolter des indices, tu vas aller interroger tes chers camarades de classe. Et puis ensuite, il y a un point intéressant par rapport à Ace Attorney, c'est un procès. Sauf que c'est un procès que tu mènes toute la classe entière. Et dans ce procès, il y a évidemment la personne qui a tué la personne morte.
C'est vraiment une camarade de classe ?
Oui, qui a tué quelqu'un. C'est toujours une camarade de classe qui va tuer un autre pour essayer de partir. Et évidemment... Monokuma, donc ce petit nounours noir et blanc très mignon, va te donner des motivations, comme te montrer toute ta famille qui a sa maison complètement détruite pour te dire « t'es sûr que tu veux pas sortir d'ici ?» C'est ultra sadique. Moi j'adore parce que il y a plein de thématiques ultra intéressantes justement sur la notion d'espoir et de désespoir, parce que les personnages sont très bien écrits et qu'ils partent d'archétypes qu'on connaît un petit peu quand on connaît la culture japonaise, mais qui en fait autre chose. Les graphismes sont aussi très particuliers. La direction artistique, c'est pas vraiment de l'animation, mais c'est pas vraiment du comics. Enfin, vraiment, tu vois l'art style de... Je sais plus comment s'appelle la personne qui a dessiné Dangan. Mais tu vois l'art style et tu sais tout de suite que c'est cette personne, parce que ça ressemble à rien d'autre. Et ce qui est super intéressant, je trouve, au niveau des procès, c'est que justement, le fait que t'aies une pluralité de gens qui réfléchissent, donc toi, en tant que joueur-joueuse, mais aussi les camarades de classe qui vont essayer de t'induire en erreur ou de t'aider, ou qui sont juste complètement cons et qui vont dire de la merde parce qu'ils arrivent aux mauvaises conclusions, ça aide pas mal. Et puis en plus, le gameplay est très dynamique pour un visual novel où souvent... les gens trouvent ça chiant parce que justement, tu fais que appuyer sur le bouton A et suivre les choses. Le gameplay du procès est très dynamique parce que tu vas tirer sur les arguments avec des balles, donc t'as un système de visée. Il faut tirer le bon argument dans le bon statement. Enfin, c'est plein de petites mécaniques comme ça qui s'ajoutent et c'est hyper créatif en fait. Moi, c'est ce qui m'a grave marqué dans ce jeu, c'est très créatif Et au niveau des thèmes, espoir, désespoir, ça m'a bien parlé, surtout cette année. et je sais pas, je peux pas vraiment en dire plus, sinon ce serait spoilé, parce que c'est une série qui est à base de plein de twists, et les twists du premier sont hyper intéressants, j'ai eu beaucoup de chance de les faire sans être spoilé. Donc voilà. Du coup, Mon Gothi est sorti en 2010, et c'est parce que j'ai acheté la compilation anniversaire des 10 ans du jeu, qui contient le 1, le 2, V3 et un spin-off que j'ai fait celui-là cette année. Et je suis en train de faire le 2, donc si jamais auditeur, auditrice, vous commentez, s'il vous plaît, ne spoilez pas la suite des événements. voilà, parce que j'ai absolument envie de continuer à faire de manière naïve. Voilà, sans savoir. J'aime bien ne pas savoir. C'est pour ça que j'ai rien regardé sur Lies of P, hein, parce que du coup, je ne sais pas.
Mais ça doit être trop dur.
J'ai pas encore fait la démo.
Oui, et non, mais justement, est-ce que tu ne vis pas dans la frustration actuellement?
Alors, je vis pas dans la frustration parce que comme j'interagis peu avec la communauté, ça va. Et puis surtout, en fait, je pense que Lies of P, ça fait autant de temps aussi que j'hésite de me lancer dedans parce que je déteste Pinocchio.
J'aime pas Pinocchio non plus.
Et l'histoire, c'est Pinocchio.
Bah, je sais pas, c'est nul.
Ouais, on se fait chier, Pinocchio.
Ah, j'aime bien, ça a toujours été un peu sombre, ah, ouais. Pinocchio.
Mais toi, c'est parce que le petit criquet, là, il s'appelle Jiminy. Et t'es Gémeaux.
Ah, parce qu'il est Gémeaux. Ah ouais. J'ai ah. Je sais pas si ça, je crois que le criquet, il est vraiment associé à Disney, hein. Je crois que c'était dans l'histoire. Mais je sais que mes parents avaient l'histoire originale en livre illustré. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vachement dark.
Ah oui, 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 oui. Ouais.
Oh, bah dis donc.
Bah, moi, c'est le... Enfin, parce que je le connais que en Disney, Pinocchio, à la base, mais c'est un Disney où je me dis, à la fois, je m'ennuie, et à la fois, il me met mal à l'aise. Donc, je vais pas rester... Voilà.
Un peu comme Dumbo, tu vois. J'ai eu la même réaction, ouais, sur Dumbo. Pareil. C'est genre, je me fais chier, et en même temps, je suis très mal à l'aise. Je sais pas, ouais, comment réagir.
Ouais, ouais, pareil. Je les associe beaucoup, Pinocchio et Dumbo.
Et donc, l'illustrateur que tu cherchais, je pense, Kit, c'est Louis Komatsu.
Ouais, c'est ça. Voilà, qui, de toute façon, quand vous voyez sa patte graphique quelque part, vous savez que c'est lui. Il n'y a pas trop de questionnement.
Ouais, moi j'ai connu par le cosplay d'Danganronpa. Et du coup, je ne savais pas du tout ce que ça racontait, ça a l'air complètement zinzin.
C'est très inspiré, de pour celles qui s'y connaissent un peu, de trucs comme Battle Royale, du coup, qui au départ est un manga, ensuite a été adapté en film, qui le premier et le deuxième des films sont très bien. C'est très inspiré de ça, mais disons que toutes les mécaniques d'enquête et de procès qui vont autour marchent trop bien. Et j'avoue, je suis un peu triste parce que j'adore Ace Attorney. Je les ai fait aussi et je les trouve très bien. Et je trouve ça un peu dommage que les gens qui ont streamé les Ace Attorney n'aillent pas s'intéresser à cette série-là, parce que tu retrouves tout ce dynamisme de l'enquête. Mais c'est peut-être un petit peu trop japonais. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que c'est très ancré dans la culture lycée Japon. Du coup, ça bloque peut-être les personnes qui sont moins familières avec ce genre de setting, quoi.
Ça peut faire peur, même le nounours qui parle et tout, d'un seul coup, t'es là, what? Enfin, ouais, ça peut décontenancer, en tout cas, une certaine...
Ouais, sachez que comme on est à la fin d'année et c'est bientôt Noël, si jamais quelqu'un a envie d'offrir un nounours à Monokuma, je suis preneur, parce que c'est un petit peu devenu un intérêt spécifique, on va pas se mentir.
Bah, voilà. Moi, mon Gothi, je pense... que c'est Baldur's Gate.
J'en étais sûre.
Personne, absolument pas original, mais alors...
Team Astarion ou pas?
Alors, j'ai Kenna. Mais à la base, je voulais pas spécialement, c'est juste parce qu'il a demandé. J'ai dit, bon, ok, une fois, si tu veux. T'es quand même un peu beau gosse. Et t'es mon archer sûr, donc ok. En fait, j'ai vu ça comme un service, c'est bizarre. Genre, ok, tu m'as rendu service.
Ouais.
C'est un peu chelou, ma relation.
C'est chelou, hein.
Mais à la base, moi, je voulais Ken Will, parce que j'aime beaucoup son aspect. Oui, bah, vous voyez peut-être pas qui...
Non, parce que je suis pas allée assez loin dans le jeu, moi, encore.
T'y es pas, mais quoi?
Mais parce que je sais pas, j'avais d'autres jeux à faire.
Mais de... Quel autre jeu?
Lies of P.
Mais non, enfin, ok, Lies of P, il a l'air cool, mais... Putain, Baldur's Gate, quoi. Enfin, bref. Ah, bref. Et Will, ouais, avec son aspect de... C'est un mec qui se la raconte en mode, oui, je suis le héros de ces terres. Tu vois, il a un peu un aspect un peu show-off, un peu... J'avais envie de le ken juste...
Je pense qu'il est gémeaux.
Non, il est probablement lion.
Qui te plaît dans
Baldur's Gate, ouais.
Alors, dans Baldur's Gate, tout me plaît. Ce qui me rend ouf, c'est la façon dont on interagit avec l'environnement, la façon dont... Tout ce que t'as en tête quasiment est possible. pour faire pour résoudre une quête. Tu peux voler à la tire les PNJ, même les gens qui sont juste en train de te parler et qui sont en train de te proposer une quête, tu peux prendre un autre personnage et aller leur faire les poches pendant ce temps-là. Enfin, il y a vraiment une interaction avec l'environnement, il y a que l'Ariane qui sait faire ça. J'avoue qu'au début, Baldur's Gate 3, je l'attendais pas spécialement, parce que j'avais un peu trop peur que ce soit Original Sin 3. Et alors, c'est clair que quand j'ai lancé le jeu, je me suis retrouvée à la maison, j'étais en mode, oui, c'est vraiment très basé sur Original Sin 2, mais enfin, on est tellement bien là-dedans, et c'est tellement intelligent, et c'est la narration, elle est incroyable, parce que du coup, t'as tellement de manières de découvrir des informations que même en soulevant une pierre, tu peux tomber sur des infos. Enfin, c'est incroyable. Ça mélange vraiment, je trouve, toutes les manières qu'a le jeu vidéo de nous raconter des choses. Par la musique, par l'environnement, par les objets, par la description des objets. Genre, si t'es un Dark Souliste mastercore, ben, tu seras quand même content parce que tu pourras lire tes descriptions à la con d'objets qui te racontent des histoires.
Oh là là, dans Dark Souls, oh là là.
Pardon.
Et devant dit ceci, je crois que là.
À la con.
J'avoue qu'on se sent un peu insulté ici. Hein.
Mais justement, dans Baldur's Gate, il y a des descriptions très drôles et l'humour de l'Ariane, c'est incroyable. Il y a de l'humour partout et du bon humour, je précise. C'est...
Oui, alors après, bon humour, mauvais humour, hein, ça dépend des gens, quoi.
C'est plus drôle que Clem, par exemple.
Ouh.
Ouais, c'est, ça donne un petit niveau, quand même.
Ça tire à balles réelles.
Bonjour à Clem.
Salut, ça va?
Et moi, je me demandais, est-ce que t'es une joueuse de jeux de rôle? Parce que j'ai un retour que j'ai beaucoup eu sur Baldur's Gate 3, c'est que c'est un des premiers jeux pour la communauté jeux de rôle qui avait l'air de laisser autant de permission sur ce que tu peux faire qu'un jeu de rôle. Et quand t'as parlé de tout ce que tu peux faire, ça m'a évoqué ça. Du coup, est-ce que ça a joué, tu penses aussi?
Oui, 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 bien sûr. C'est très, très proche des jeux de rôle. Et on en parlait dans notre vidéo sur Original Sin 2, comment il s'appelle? Sven Vinke. C'est un gros kiffeur de jeux de rôle aussi. Et que lui et son équipe, parce qu'évidemment, c'est pas lui tout seul qui a fait... lui et son équipe ont vraiment beaucoup réfléchi à ce qui se passe pendant un jeu de rôle au niveau de l'interaction maître de jeu, maîtresse de jeu et joueur-joueuse. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Mais le travail doit être infernal, quoi. C'est comme ça qu'ils ont réussi à établir des espèces de fils. Des fils qui sont invisibles quand on est sur une partie de jeu de rôle, mais que là, ils ont dû coder, en fait. Et c'est ça qui est très, très impressionnant. Et alors oui, le problème c'est que c'est tellement proche de l'expérience que tu peux avoir en jeu de rôle que quand ça s'en éloigne, ça devient frustrant. C'est-à-dire que t'as des moments où clairement t'as un MJ qui te donnerait des indications un peu plus fouillées, un peu plus ce serait un peu plus personnalisé comme expérience, qui est logique. Et du coup, tu le ressens un peu plus quand tu joues à Baldur's Gate, parce que justement tu te dis ah ouais, mais ça. Enfin, par exemple, je pense ce qui m'est arrivé genre hier ou avant-hier, j'ai eu un choix de dialogue qui a donné quelque chose que je pensais pas que ça allait donner ça, en fait, et c'était plutôt négatif. Moi, j'avais pas compris ça. Et clairement, pendant une partie de jeu de rôle, ça se passerait pas comme ça. Enfin, ça m'est déjà arrivé de mal comprendre et de dire à l'AMJ ou au MJ de ah, attends, non, en fait, j'avais pas du tout compris ça. Est-ce qu'on peut le refaire, s'il te plaît? Et ça, bon, à moins de sauvegarder et de recharger la partie. C'est beaucoup moins... Il y a plein de petites choses comme ça où tu dis « Ah, ouais, non. ça, en jeu de rôle, ça aurait pas été comme ça. » Bah ouais, mais en même temps, on n'est pas dans un jeu de rôle. Même si ça y ressemble beaucoup. Un jeu de rôle solo, c'est incroyable.
Et t'es encore sur ta première run ou t'as lancé autre chose? Ok.
Parce que contrairement à ce que j'ai l'air de laisser paraître, en fait, j'ai pas eu tant de temps que ça pour y jouer. Je dois même pas être au centre encore. Donc, ça va.
Ça va, 100 petites heures dans une vie, qu'est-ce que c'est finalement?
C'est pas grand chose, c'est que quelques jeux. Tu sais, j'étais en train de me dire, faudrait voir une grossesse, combien d'heures ça prend dans ta vie.
Ah, j'avoue.
Oui, parce que j'allais te dire, c'est 9 mois, hein, sinon si tu veux ça.
Est-ce que c'est un bébé?
Alors, est-ce que c'est une grossesse, quoi? Il y a certains jeux, est-ce que c'est une grossesse?
Je sais pas. Alors, moi, clairement, FF14, tu vois, c'est une grossesse, je pense que c'est même plusieurs grossesses.
Déjà, c'est ça, c'est combien de grossesses ça fait, ça? Et ouais, je pense que c'est mon GOTY. Mais je pense que c'est le GOTY de beaucoup de gens.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais en tout cas, sur le côté JDR, c'est marrant parce que moi, j'ai pas beaucoup fait de JDR dans ma vie et j'ai pas énormément joué à Baldur's Gate. Bah voilà, je dois avoir, je sais pas, 10 heures max.
Un dixième de bébé, quoi.
Ouais, un dixième de bébé. Mais rien que sur le peu que j'ai joué, j'ai senti ce truc en mode, oh, je me sens libre dans ce que je suis en train de faire. Et oui, et ça faisait très GDR, j'ai bien aimé. Mais ouais, je pense que ça doit être le GOTY de beaucoup de monde. Et du coup, c'est intéressant de parler des GOTY. Parce que justement, n'étant pas une grande joueuse de JDR et pas trop de RPG non plus, pas des RPG si RPG quoi.
Ouais.
Tu vois. C'est vrai que quand tout le monde était là, genre ouais, Baldur's Gate, gna. C'est vrai que j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qu'il a de si spécial ce jeu quoi? Qu'est-ce qui fait le GOTY?
Le GOTY. Bah moi, je n'y ai pas joué, mais je suis quelqu'un de très fan de la série de Dragon Age. Donc autant vous dire que depuis longtemps, j'attends Dragon Age 4. Bisous, BioWare. Un jour, peut-être. Ce que j'ai beaucoup remarqué de communautés qui, justement, apprécient Dragon Age, ou même de communautés qui apprécient The Witcher, c'est que ça a l'air d'être un peu un renouveau du Western RPG par rapport à ce qui sortait récemment. Ça a l'air d'être, en fait, un de ces rares jeux à gros budget, avec des graphismes hyper réalistes, hyper shadés et tout, qui tente des choses en fait un peu qui sort des carcans de ce dont justement bah des trucs plus populaires à la The Witcher ou Dragon Age nous ont habitués, et que en fait c'est un peu ça, j'ai l'impression, qui a aussi marqué les joueurs joueuses, c'est que du coup ça tente autant de permissions aux joueuses, ça tente d'avoir un gameplay JDR aussi présent, parce que de ce que j'ai vu il y a des jets dévisibles et tout. Et ça essaye ce genre de truc, et en fait, leur pari, il est passé, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a plu aux gens. Et, en tout cas, moi, je sais que je l'ai clairement vécu, genre, comme un truc qui est en train d'amener un renouveau dans le Western RPG, alors que j'y ai même pas joué moi-même. Mais parce que j'ai vu tellement le rayonnement et les discussions autour que je me suis dit, ok, d'accord, je vois en quoi ça amène des trucs que moi, j'attends pas forcément dans un RPG, mais qui, en effet, potentiellement, moi je suis sûre que dans quelques années on va avoir plein de RPG qui vont essayer de fonctionner sur ce principe, qui vont sortir, parce que c'est un peu l'étincelle qu'il fallait pour renouveler le genre dans lequel on était en train de s'empâter, hein, très honnêtement. Moi c'est vrai que je suis retournée vers les RPG japonais parce que je trouvais que les RPG occidentaux, justement, j'en avais un peu marre, c'est un peu toujours la même sauce, et votre univers est très cool, mais s'il pouvait être un peu plus diversifié. Et du coup, je suis retournée vers les RPG japonais dans lesquels il y a un peu plus de prise de risque pour certains, même si ça reste très conventionné aussi. Et puis surtout, je sais pas à quel point l'Ariane s'inspire des indés, mais je sais pas, il y a un espèce de côté entre le triple A et l'indé, je trouve, à Baldur's Gate, sur certains tests qui ont été faits que d'habitude les grosses boîtes se permettent pas. Et là, ils ont tenté des trucs qui semblent crafty et que tu verrais chez des petits jeux qui sortent sur Itch. Mais là, ils l'ont fait en grandeur, et en fait, bah, juste le pari à payer, quoi.
Après, il me semble, si je me souviens bien de l'histoire, il me semble que Divinity Original Sin 2, c'était leur portfolio pour ensuite... ou alors, il y a une histoire du genre, ils ont essayé d'avoir la licence Baldur's Gate, ils l'ont pas eu... Et du coup, ils ont fait Divinity Original Sin 2 en mode « Eh, non mais attends, je suis capable de faire ça, quoi. » Et du coup, ça a marché, tu vois. Et ils ont pu faire Baldur's Gate, ils ont pu avoir la licence derrière. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça de... ils avaient ça. Donc eux, à la base, en fait, l'équipe, c'est pas non plus...
Oui, c'est pas un gros truc, ouais.
C'est ça. Et leurs tests, ils les avaient déjà faits sur...
Sur Divinity, ouais.
Donc ils avaient, entre guillemets... C'est pour ça que je te dis que j'ai beaucoup retrouvé... De Divinity dans Baldur's Gate 3, je pense qu'ils ont récupéré beaucoup aussi. Enfin, ce serait con vraiment de recommencer à zéro quand t'as une si belle base. Et d'ailleurs, je pense même que le début de Baldur's Gate 3, en fait, ça commence exactement comme Divinity Original Sin 2 narrativement. Je pense que c'est un petit peu fait exprès, c'est un peu pour faire le clin d'œil de hey, vous vous attendiez à ce qu'on fasse la même chose, bah tu vas voir, là pour l'instant c'est pareil, mais après ça va pouf. Et parce que pareil, t'es prisonnier d'un peuple dans son vaisseau. Bon, c'est un bateau dans Divinity, j'en dis pas plus pour Baldur's Gate, même si c'est le début. et tu vas réussir à te libérer, tu vas retrouver quelques personnes, tu vas échouer sur une côte.
Mmh.
Exactement, tu vas atteindre une ville proche, et là, l'histoire va vraiment commencer. Et c'est vraiment amusant, quand j'ai lancé le jeu, j'ai fait... Mais vous l'avez fait pour moi. Allô, Lariane. Moi, je sais que c'est la même chose. Je vois le clin d'œil. Et c'était assez marrant. Beaucoup de balises. Le sang. Sur les GOTY, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler du terme GOTY? GOTY, pardon.
Non, moi je me rappelle pas du tout.
Tu te rappelles pas?
Alors moi je me rappelle pas quand ça a démarré. Je me rappelle par contre que ça devient de plus en plus présent depuis, je dirais, ces... J'ai pas envie de dire 5 années, mais peut-être 6 en fait. Enfin,
moi je serais d'accord avec toi.
Truc comme ça. Je sais pas à quel moment le terme est sorti, mais j'ai l'impression que depuis ces 5 dernières années, tu peux pas finir l'année sans parler de ton GOTY, quoi. Tu peux pas finir l'année sans aller voter pour ton GOTY sur 8 milliards de sites différents, parce qu'il y a 8 milliards de GOTY différents. Et ouais, j'ai un peu l'impression que je sais pas te dire quand ça a démarré, mais depuis 5 ans, j'entends ce mot-là à la bouche de tout. Enfin, tu vois, là, on est en podcast, on parle de GOTY. Ça fait des années, il y a des podcasts qui parlent de GOTY. C'est pareil pour les vidéos, et voilà.
Effectivement, ça s'est amplifié ces 5 dernières années, mais en fait, j'ai gratté un petit peu Internet. Et j'ai trouvé que ça date...
T'as dû soulever un bon paquet de merde.
J'avoue.
Quand tu grattes Internet, il y a des trucs qui tombent, tu sais pas trop.
Surtout dans le milieu du jeu vidéo.
Déjà, j'ai gratté, j'ai trouvé Geoff Kelly, alors bon, je sais pas. Et en réalité, donc ça date des années 2000, et c'est la chaîne de télévision américaine, Spike TV,
qui
organise depuis 2003 les Spike Video Game Awards. Donc c'était vraiment pareil que les Game Awards, hein. C'était cérémonie, on choisit les meilleurs jeux. Alors sur quelle base? Est-ce que c'est les jeux les plus vendus? Est-ce que c'est les jeux qui ont fait le plus gros chèque à la chaîne de télé?
Ouais.
On ne sait pas trop. Pour récompenser, voilà, sur le modèle des Oscars, etc., etc. Repris dès 2014 par Geoff Keighley, qui ensuite a fait les Game Awards. Et en fait, ça s'est développé dans les années 2000. Et il y a l'Académie des jeux vidéo aux États-Unis qui faisait ça déjà dans les années 90.
Ooh.
93 très exactement, mais c'était pas public, quoi. Enfin, c'était pas aussi public qu'une chaîne de télé. Et ils ont fait ça, ils ont remonté jusqu'à 79 pour élire tous les meilleurs jeux de chaque année.
Wow.
Je ne sais pas sur quoi ça se base.
Ouais, c'est ça, c'était quoi leurs critères?
Bah, en 79, je sais que c'était Pong, mais quels étaient les critères? Est-ce que c'était, déjà, il y avait beaucoup moins de concurrence, mais est-ce que c'était genre le jeu le plus vendu, le plus novateur? Quel était les critères de l'Académie? J'en ai aucune idée. Ou le jeu qui a le plus marqué l'histoire à cette année-là? C'est bizarre. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, vous, vos critères sur les GOTY, c'est quoi ?
Alors, déjà, étant plutôt une noob, en vrai, des awards, des GOTY, des GOTY, en vrai, c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf. Est-ce qu'on connaît les critères, déjà, officiels ?
Non, pas vrai. Alors, pas vraiment, parce que, justement, il y a toute une histoire... Moi, je suis partie des gens très critiques des GOTY, des Game Awards et globalement de tous les awards, pas que dans le jeu vidéo, mais de partout. Et il y a beaucoup de critiques chaque année sur les Game Awards, déjà parce que c'est des jeux très conventionnels qui sont dans les GOTY. Genre maintenant, il y a des catégories pour les indés, tu vois, mais il n'y a pas d'indés dans les GOTY, alors que techniquement, ouais. Ce serait possible. Et puis, tu as le vote du public, mais j'ai jamais compris chez les Game Awards si le vote du public... C'était un certain pourcentage, mais qu'après, il y a un jury, parce que t'as des années où il y a plein de gens qui votent pour un jeu en particulier qui s'est clairement démarqué côté public. Et puis, au final, quand t'arrives à la cérémonie, c'est un autre qui a le award. Du coup, t'es là en mode, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé un wagon. Du coup, je sais plus si c'est explicité sur leur site, mais je crois qu'il y a une histoire de micmac entre eux. Il y a une certaine quantité, c'est le public, et une certaine quantité, c'est des jurys.
Alors, les nommés pour les Game Awards, les jeux sont choisis par un jury international de 100 médias. Et de mémoire, je sais que, pour avoir discuté avec des journalistes, je sais qu'il y a des magazines jeux vidéo... qui sont sollicités et qui parfois disent non, flemme. Vraiment, Jeff, casse-toi. Et à l'inverse, je sais qu'il y a des journalistes saltimbanques de jeux vidéo qui sont sollicités et qui eux disent oui, bien sûr.
Tu veux dire Julien, chies.
Comment t'as su? Donc c'est, ouais, en France, je crois qu'il y a une dizaine d'entités, on va dire, qui choisissent. Comme ça, oui, ça, je le verrais bien en nommé, ça, je le verrais bien, et ça, je le verrais bien. Quoi. Ça m'a plu.
Ouais, j'allais dire plus que ça m'a plu, j'ai l'impression. Là, on a les titres sous les yeux des GOTY nominés. C'est surtout des licences, enfin, non, pas des licences, mais il y en a, mais des jeux qui font énormément parler, en tout cas.
Qui font énormément parler, qui ont été énormément vendus aussi.
Ouais.
Et c'est le problème d'avoir un vote du public, c'est que forcément, si tu mets un jeu indépendant et en face, tu mets Spider-Man 2, mm-hmm. bah, vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont joué à Spider-Man 2, par logique de chiffres, bah, ça va pencher vers Spider-Man 2, normalement.
Ouais.
Même, il y a un truc de... quand tu regardes les jeux nominés, par exemple, cette année... C'est très conventionnel en termes de gameplay. Oui. À part Baldur's Gate, qui du coup arrive avec ses nouveaux trucs. Ben, tu sais, les nominés, c'est genre Alan Wake 2. Ouais, ça ressemble à n'importe quel TPS d'horreur que j'ai fait dans ma vie, tu vois. Genre, sans vouloir être méchant avec Alan Wake 2, hein, ça se trouve, c'est très bien, mais de ce que j'en ai vu, voilà. Marvel Spider-Man 2, bah, c'est Spider-Man 1 en mieux.
Ça, c'est un 2. Enfin, déjà, il y a que des suites.
Oui.
Baldur's Gate 3, Alan Wake 2. Ah non, il y a Mario.
Il y a Mario, ouais.
Et Zelda, c'est,
Zelda, c'est une suite. C'est une...
Puis même,
puis on a dit remake,
Resident Evil 4, c'est un remake.
Ouais.
Let's go, quoi. Et Alan Wake 2, pareil, j'ai pas du tout suivi cette.
C'est la suite du reboot d'Alan Wake.
Donc c'est pas un remake, c'est vraiment un nouveau jeu.
C'est la suite du reboot, ouais. Et ouais, si par contre j'ai été méchant, Mario Wonder, il renouvelle aussi.
Ouais.
Vachement. Pas forcément le gameplay platformer, mais il vient renouveler la licence Mario, qui en avait bien besoin sur un Mario 2D depuis toutes ces années. Mais voilà quoi, c'est très conventionnel quoi.
Ouais, parce que même s'il renouvelle Mario, bah Mario c'est une énorme licence quoi.
Ah, c'est
donc,
ça.
Donc bon.
Mario Zelda.
Ouais, puis du coup Game of the Year, mais tu vois genre ça a pas l'air d'être basé sur est-ce qu'on peut décider cette année de quel est le Game of the Year, parce qu'on voit pas le rayonnement de ces jeux sur les années suivantes.
Mm-hmm.
Genre du coup quel jeu tu peux dire cette année t'es sûr qu'il va influencer les prochaines années? Moi, je l'ai dit sur Baldur's Gate parce que je le pense, mais en vrai, on saura que dans 5 ans si j'avais raison ou pas.
Ouais.
Et du coup, finalement, ce que faisait l'Académie, ça semble plus logique, parce que si tu veux te baser sur historiquement à quel point ça a marqué l'industrie, la façon de faire au niveau game design ou graphisme ou coding ou quoi, bah déjà, faudrait demander aux gens qui créent les jeux, parce que c'est sympa de demander aux journalistes, et je les aime beaucoup, mais savoir quel rayonnement ça a pour les personnels de l'industrie. Genre, à quel point est-ce que Baldur's Gate 3, ça a influencé des gens de l'industrie par rapport à un Mario sur leurs idées dans les prochaines années? Ça, c'est hyper intéressant à concevoir. Parce que, bah, il y a tout l'aspect joueur-joueuse ou presse, mais un truc qui est intéressant à questionner aussi, c'est quoi le Game of the Year pour les gens de l'industrie, en fait?
Et comment ça va les influencer?
Pour ces personnes-là, quoi.
Ouais, du coup, moi, pour répondre à la question, ma définition du GOTY, ce serait
qu'on a kiffé.
Moi j'aime bien faire un petit bilan. Ouais. J'aime bien. D'ailleurs, j'essaye de me tenir. J'ai une page Notion. Si vous connaissez pas Notion, alors déjà, bon, hein, voilà, petite organisation pour la faire très vite, où je répertorie tout ce que je lis, tout ce que je regarde et tout ce à quoi je joue. Et donc du coup, j'ai toute la liste des jeux que j'ai fait cette année, quoi. Et j'aime bien regarder, voir. Bah, il y a des jeux, je me dis, ah, mais j'ai joué cette année. J'avais l'impression que c'était il y a hyper longtemps et tout. Et c'est hyper intéressant de faire une petite rétrospective pour voir à quoi on a joué, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a arrêté. Du coup, moi, j'aime bien. L'idée de parler d'un GOTY dans le sens où voilà, c'est le jeu, bah il m'a marqué particulièrement. Moi, j'ai parlé de Dredge parce que il m'a cueilli un peu, le jeu. Je m'y attendais pas et je là waouh, il y a un jeu de pêche que j'aime bien et tout, avec de l'exploration. Enfin, il avait plein de thématiques que j'aimais, plein de choses dans son gameplay que j'aimais. Et voilà, et pourtant j'y ai pas passé énormément de temps dessus parce que c'est un jeu très court quand même, Dredge au final. Mais voilà, pour moi le GOTY c'est intéressant sur le côté voilà, on fait le bilan calmement de son année de jeux vidéo. Et j'aime bien, mais pour moi, genre, par exemple, les Game Awards, c'est du marketing, quoi.
Bah ouais.
Et voilà,
le mot a été droppé.
Je crois que partout où Jeff Kelly passe, le marketing repasse. C'est c'est vraiment le mec, c'est ça. Il ne vit que pour ça. Hein. Enfin, vraiment, c'est l'image que j'ai de lui. C'est peut-être un garçon très charmant. J'en sais rien. J'en ai un petit peu rien à foutre. Mais c'est quand même un. C'est le Julien Chies américain.
Est-ce que c'est le même qui fait le nouveau E3
là? Oui, c'est lui.
Ah oui, d'accord. Oui, d'où le fait que maintenant c'est de la merde, plus qu'avant. Pardon.
Mais au-delà.
Le Doritos Gate.
Ah oui, d'accord.
Mais au-delà du personnage, de ce qu'il a créé avec les Game Awards et tout, je trouve que les Game Awards ou les GOTY, c'est aussi une façon de communiquer autour des jeux vidéo et qui est partout, en fait, dans les médias, où on est, comme vous disiez, beaucoup plus dans l'immédiateté. Alors, on va dire, c'est quoi le GOTY de l'année, alors qu'on n'a pas eu un recul sur le jeu, en fait, au final, parce que c'est marketing et parce qu'il juste il faut communiquer dessus, en fait.
Bah, ça, et puis je pense parce que le jeu vidéo cherche désespérément à prouver à ses ancêtres, si je peux dire ça comme ça, comme le cinéma ou la musique ou le théâtre ou tout ça. Ça se voit notamment en France avec la création des Pégases, qui a été totalement fait pour ça, pour être l'équivalent de la Palme d'Or ou des Césars, quoi. Y a une volonté du jeu vidéo à vouloir être légitime en tant qu'art, et je pense que la succession de justement ces espèces de prix sur lesquels tu peux mettre, bah moi j'ai eu tel prix pour mon jeu et tout. Finalement, c'est pas un truc qu'a créé le jeu, c'est un truc qu'il essaye de s'approprier pour se mettre au même rang que les autres académiquement. Alors, il y a tout l'aspect marketing et tout, mais je sais que d'un point de vue création, en tout cas ça a été le cas pour les Pégases en France, il y avait une vraie volonté d'essayer de un peu prouver genre à ton papa ou à ta maman, et regardez, je suis le dernier de la bande, mais je fais des trucs bien aussi, je fais des trucs réfléchis, et moi aussi j'ai des prix et tout. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que c'est à mettre en lumière, et que est-ce que ces récompenses là elles sont de toute manière si pertinentes dans les autres domaines aussi, et du coup est-ce que c'est si pertinent de le mettre chez nous, et est-ce qu'on a encore besoin de prouver à papa et maman que le jeu vidéo a sa place dans la culture, en fait.
Et il y a, alors c'est vrai que ça existe dans d'autres domaines, évidemment, le cinéma, etc., la littérature aussi. Maintenant que nous, dans le jeu vidéo, on a vraiment ce terme de jeu de l'année, et je sais pas si il y a l'équivalent film de l'année, livre de l'année, tu vois. En général, il y a toujours des catégories, soit t'as la Palme d'Or de Cannes, soit t'as le César du meilleur technicien de surface. C'est rarement ça.
Non, je pense pas, non. On devrait être reconnu dans les...
Et aussi, il y a ça, en vrai, souvent, même dans les Molières et tout, souvent, il y a des prix qui sont remis aux travailleurs et aux travailleuses.
Ouais.
Pour l'instant, le jeu vidéo, j'ai pas trop l'impression que ce soit...
c'est remis à des studios ou à des patrons, quoi. Donc, t'es là en mode cool, mais ils font pas tout, quoi.
Des patrons qui virent des gens, c'est...
Mais tu vois ce que tu dis sur le fait que ce soit le jeu de l'année, et pas que ce soit ça sur dans d'autres œuvres, dans d'autres médias, dans d'autres domaines. Moi je le rapproche aussi du fait que c'est assez particulier dans le domaine du jeu vidéo de tout de suite vouloir, d'être très hypé par des choses et tout. Enfin, ça va très très vite, je trouve, dans le jeu vidéo.
Et du coup, ça associe plus le jeu vidéo, tout en ayant cette volonté d'être culturellement reconnu, académiquement reconnu, etc. Il y a toujours cette dualité de, en fait, on est un putain de produit sur un putain de marché. Et en fait, je trouve que avoir ce système de GOTY, ça casse un peu l'image de produits culturels qu'ils veulent se donner, et ça renforce l'image de produit commercial du jeu vidéo, parce qu'au final, l'industrie reconnaît elle-même qu'elle produit un catalogue de produits, d'objets, et que parmi toute cette masse d'objets, et ben en fait, il y en a quand même quelques-uns qui sont très bien. C'est bizarre, quoi.
Ouais. Bah, ouais, c'est un truc que fait pas du tout le cinéma, alors qu'en soi, les industries créatives et culturelles, c'est pareil. En cinéma, le nombre de projets qui sont financés, qui sont nuls. Les industries comme le cinéma, elles cachent un peu plus qu'elles produisent des merdes, justement, tu vois. Genre, là où le jeu vidéo assume que, bah ouais, tu vas avoir des centaines de jeux qui sortent par jour, et c'est même pas une exagération, c'est réel. T'as des centaines de jeux qui sortent par jour, et il y en a peut-être 10 dans l'année qui vont être incroyables. Et en fait, il y a cette partie-là qui est assumée. Mais je me demande si ça vient pas du fait que, enfin, après c'est peut-être moi et je suis pas allée me renseigner sur la question, mais moi je me dis qu'il y a aussi un truc vachement communautaire aux jeux vidéo qui a peut-être moins dans d'autres domaines. Je sais que ça se fait des rassemblements de gens qui aiment le cinéma, t'as des book clubs pour les gens qui lisent des livres, comme chez Ditz par exemple, les petits book clubs.
Exactement. Un mercredi par mois.
Oui, le premier mercredi du mois.
Voilà. Se rassemble dans sa communauté pour lire un livre tous ensemble. Ah, j'en profite, je fais des pubs, vous voyez, c'est incroyable. Le marketing, ici aussi, on maîtrise.
Et on n'a pas besoin de Jeff.
Et non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me demande s'il n'y a pas cette volonté d'être, du coup, très immédiat par rapport à la culture Internet. Parce que beaucoup des gens qui consomment le jeu vidéo sont de la génération, soit... bah alors, t'as toujours les millennials, ou t'as les gens comme moi qui sont entre les millennials et les zoomers, et on a le cul entre les deux, et on sait pas trop où foutre. Et puis après, bah t'as beaucoup de gens qui jouent, qui sont des gens nés dans les années 2000, qui ont vécu avec Internet, et qui, en fait, consomment tout immédiatement. Et je me demande, c'est pour ça qu'on parle pas de jeu de l'année et tout, parce qu'aussi, le public du jeu vidéo, il est vachement plus habitué à cette immédiateté de la communauté, cette immédiateté de l'information, que d'autres publics qui sont en train de le devenir parce qu'on le met dans leurs usages, mais où au départ c'était pas aussi rapide en fait, et où le jeu vidéo c'est très vite devenu très rapide quoi.
Et il y a aussi évidemment un bon jeu de calendrier sur le fait que vous ne savez pas quoi offrir à vos enfants, et bien ça tombe bien, il y a le jeu de l'année qui est en solde chez Carrefour, j'en sais rien mais... J'ai l'impression aussi que ouais, ça s'est développé, comme on disait, ces dernières années. Est-ce que quand vous étiez enfant, moi j'ai absolument pas le souvenir qu'on faisait ça, est-ce que c'était parce que le catalogue était réduit et que du coup, de toute façon, on n'avait pas un jeu de l'année, on avait un jeu pour la moitié de décennie, parce que de toute façon, on les terminait pas, ils étaient trop durs, ou est-ce que c'est l'industrie qui a vraiment poussé à dire « mais on a aussi des jeux remarquables ».
Ah, ça, je t'avoue, je sais pas. Parce que un truc qui a beaucoup changé dans les usages aussi au niveau jeux vidéo et que notamment qui est très connu de la presse, c'est que avant la vie, l'opinion sur les jeux passait beaucoup par la presse vidéoludique, que ce soit papier à l'époque ou après quand il y a eu les sites en ligne. Moi, je me rappelle de l'époque où mon père il achetait ses RPG Magazine ou les trucs comme ça et on les lisait pour voir qu'est-ce qui était cool et qui sortait, tu vois. Et c'est grâce à ça qu'on avait entendu parler de Kingdom Hearts, c'était incroyable. Et maintenant, en fait, la presse vidéoludique elle est en train de crever. Voilà,
Salut.
On le sait, on vous aime beaucoup et on essaye de soutenir au max la presse indépendante, notamment française, hein, n'est-ce pas?
Les Origami, les
jeux. JV Le Mag, ouais, c'est ça. Canard PC, Origami, t'as aussi, j'ai pensé à un truc que j'ai oublié, Immersion.
Immersion, ouais, bien sûr.
Qui est beaucoup moins connu et qui fait des excellents dossiers sur le jeu aussi. T'as cette presse-là qui essaye de, du coup, devenir indépendante et de tenir face aux mastodontes que sont devenus les créateuristes de contenu, en fait.
Contenu, ouais.
Et où maintenant, les gens, quand ils hésitent sur un jeu, ils vont juste aller voir leur streameuse ou leur streamer préféré ou une vidéo sur YouTube qui va leur dire si ce jeu vaut le coup ou pas, mais ne va plus prendre le temps d'aller lire un article écrit. Et je sais pas si ça a pas influencé, parce que moi, je me rappelle pas à l'époque de la presse, en fait, si je lisais des articles sur « ça, c'était le jeu de l'année », tu vois, genre, ça m'évoque rien.
Je me souviens pas quand est-ce... Enfin, ça doit être dans les années 2000, mais j'ai pas le souvenir qu'on parlait de jeu de l'année. Enfin, ouais. Dans les années 90, fin 90, c'est pas un truc qui me... Même début 2000, jeu de l'année, c'était pas une idée qui nous venait, quoi.
Après, je me demande si une autre influence qu'il pourrait y avoir, c'est le fait que les consoles, c'est devenu un truc plus populaire. Dans le sens où, moi je me rappelle, dans les années 90-2000, avoir une PlayStation ou une Mega Drive ou une NES ou une SNES, c'était pas si répandu que ça. Surtout aux US, parce qu'il y avait eu toute la débandade à cause de je sais plus quel jeu qui avait failli faire couler...
Atari ?
Ouais, qui avait failli faire couler les jeux vidéo aux US et qui ont dû être relancés. Et maintenant, c'est un peu devenu un truc qui... dans l'imaginaire commun et dans les usages, alors que ça reste un loisir cher, parce qu'avoir une console de jeu, ça coûte de l'argent, et acheter des jeux, ça coûte de l'argent. Parce que tous les GOTY là qu'on a cités sont à 60 balles minimum. Voilà. Donc t'as vite besoin de thunes pour les avoir, et du coup je me demande si ça a pas influencé aussi. Party, bougie, flashing big money with all this fake Louis. This party, bougie, this party.
Enfin bref, beaucoup de catégories.
Beaucoup de catégories pour pas beaucoup de jeux. J'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sont un peu...
Puis pour, comme on disait, toujours pas beaucoup de travailleuses de l'industrie. Hein.
Alors que, on a les Content Creator of the Year.
Incroyable, les Content Creator of the Year. Et il n'y a pas les... c'est vrai qu'il y a les Content Creator, il y a les doubleurs.
Les actrices. Les...
Oui.
Non, s'il y avait...
travailleuses...
Il y avait une meuf. Il y a le token meuf, c'est bon.
Yes.
Il y avait actrice, actrice de doublage. Il y a du coup le content creator. Et après, c'est que des gens dans l'e-sport. Il y a le ou la meilleure athlète d'e-sport, le ou la meilleure coach. Mais voilà quoi. Genre, du coup, meilleure développeureuse, meilleure game designereuse, meilleure artiste.
Meilleure game designer, ce serait tellement facile à faire. Enfin, facile, je veux dire, ce serait intéressant de dire, ah ouais, cette personne a pensé à faire ça, quoi.
Alors
ouais.
Moi après j'ai une autre take, mais est-ce que nominer des jeux c'est nul, mais nominer des gens est-ce que c'est pas tout aussi nul quoi?
Oui.
Enfin,
peut-être le problème c'est pas
nominer des trucs.
Ouais.
Une espèce de prix.
Oui. Mais quand tu regardes l'autre, quand tu regardes l'autre connard de David Cage qui a été nommé partout parce que oh là là il est incroyable et tout, ce type est une grosse merde, personne ne veut plus aller bosser chez Quantic Dream et a raison parce que c'est un shithole complet avec des mecs qui te harcèlent et te font des remarques tout le temps. Du coup ouais, quand tu commences à donner de la notoriété, comme dans le cinéma et tout, hein, on peut aussi citer Polanski hein, qui a eu ses petits prix alors que c'est un agresseur.
mais voilà, pour moi nominer des gens c'est gênant et ça me rappelle un truc au roller derby.
Ah.
Le roller derby, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un sport d'équipe et de bagarre sur des patins à roulettes. Des roller quad, j'ai mal dit en plus.
C'est roller crad.
C'est assez crade hein, les équipes de roller derby, on en parle pas assez. Mais il se trouve que dans des matchs, des tournois, ça arrive que parfois, à la fin, on nomme
le MVP, la MVP.
Ouais.
Oh là là.
Ouais. Et personnellement, je trouve ça affreux. Et une fois, on l'avait refusé avec notre équipe parce qu'on a dit, c'est un sport d'équipe en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on mettrait un joueur ou une joueuse en avant, quoi. Donc voilà, moi, nommer des gens pour dire ils sont meilleurs, ils ont fait gna gna gna. C'est important, je pense, rétrospectivement, effectivement, de dire tel jeu, telle personne a eu un impact sur. Ouais, c'est ça qui est intéressant, l'inspiration que ça a donné, les ramifications que ça a donné dans un domaine. Mais sur le moment, nommer des jeux, nommer des gens, nous met des films, etc. C'est de la com, c'est du marketing, et c'est basé sur de la popularité, basé sur pas grand-chose, en fait, quoi.
Bah, ça, et puis, je trouve que ça invisibilise beaucoup les réalités derrière. Parce que, tu vois, par exemple, là, les Game Awards et machin, ça donne l'impression que le milieu du jeu vidéo, ça a été super successful cette année. C'est l'année où on recense le plus de licenciements dans l'industrie, dans le monde, depuis ces 5 dernières années, quelque chose comme ça. Il y a énormément de licenciements chaque mois, des gens qui se font laisser à la porte. Et à côté de ça, on sort les Game Awards et on dit « Regardez ces jeux très successful ». Du coup, le jeu vidéo fait de la thune, mais il y a plein de gens qui perdent leur boulot derrière. Et ça, ça participe aussi. Mais comme toutes ces cérémonies ont toujours participé à ce genre de choses, quoi.
Du coup, il n'y a pas de prix pour le meilleur syndicat, le qui a le plus aidé les salariés. Ce serait intéressant, je trouve. Mais bref, quelle angoisse. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. En fait, je pense que c'est intéressant, effectivement, de regarder quels jeux ont marqué, quelles œuvres ont marqué leur propre contexte, domaine. Leur propre domaine. Après, en fait, dire ça a été incroyable à ce moment-là pour telle et telle raison, et on peut voir que ça a eu un impact pendant plusieurs années. Après, il y a, d'un point de vue personnel, se dire... Moi, je pense que mon jeu de l'année, c'est celui-là, parce que je l'ai rencontré, parce que le jeu vidéo, c'est aussi une rencontre. Voilà, et ça a résonné dans ma vie pour telle ou telle raison. C'est pour ça. La raison pour laquelle on peut avoir des coachs qui sont les années 1992, si tu le souhaites. Il n'y a pas de problème. Ça peut être Undertale, ton Gauthier en 2023.
C'est une très bonne chose.
Toujours valide. Et ouais, je pense que c'est intéressant... d'un point de vue historique et d'un point de vue personnel, mais dès que ça rentre dans des ordres d'idées de marketing, d'industrie dégueulasse, non.
Et puis, c'est même super intéressant d'un point de vue creusé, en fait. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et pour quelles raisons, en fait, pour développer son esprit critique aussi de, voilà, qu'est-ce qui m'a marqué cette année, à quoi j'ai joué, pourquoi j'ai joué à ça, en fait, aussi. Donc, quoi.
Puis étudier le contexte autour aussi, tu vois. Parce que t'as des contextes dans lesquels tu vas rencontrer un jeu, tu vas passer à côté.
Ouais.
Et tu vas y rejouer des années plus tard et tu vas te rendre compte qu'il est incroyable et qu'il résonne avec toi, mais juste il a pas joué au bon moment. Quoi.
Ouais,
genre, moi je me rappelle, tu vois à quel point j'aime Bloodborne maintenant. Première fois que j'ai joué à Bloodborne, c'était bien des années avant. Et le jeu m'avait saoulé, je l'avais drop en passant même pas le premier boss. J'ai dit putain, j'adore l'univers, mais je déteste le gameplay, c'est de la merde, c'est quoi ces jeux trop difficiles? Et t'arrives maintenant, je suis en train de te dire Bloodborne c'est le meilleur jeu de la Terre, je t'aide quand tu veux à faire. Donc je pense qu'il y a ça qui joue pas mal aussi. Après pour les GOTY, je pense qu'un truc important aussi à pas oublier, c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir fini votre GOTY. Vous n'êtes pas obligé d'avoir complété et de tout savoir sur votre GOTY. Genre si vous avez eu le temps de jouer qu'un petit peu mais que ça vous a marqué, c'est suffisant. Parce qu'un truc qu'il peut y avoir avec ces rétrospectives des fois, c'est... moi, je le vis beaucoup sur les réseaux sociaux, les comparaisons de listes de ce que t'as fait, de ce que t'as vu, et qu'est-ce que t'as trouvé meilleur. Et en fait, c'est pas une compétition, genre, tu mènes ta barque comme tu veux, et si ton GOTY, j'en sais rien, c'est Kinder World, là, qui est un petit jeu sur mobile où t'envoies des messages aux gens d'encouragement et t'arroses tes plantes pour te détendre, bah, c'est tout à fait valide, et même si t'y as joué que 2 ou 3 fois, mais que ça t'a marqué assez pour ton souvenir.
Après, on a toujours ce problème de... déjà, ça veut dire quoi, finir un jeu?
Oh oui.
Mais, bon, si c'est arrivé au crédit de fin, ça n'a pas vraiment de sens.
Ah bah, j'ai fini Fashion Dreamer, tu vois, dans ce cas. Qui est le seul jeu de cette année auquel j'ai joué. Je l'ai fini, j'ai vu les crédits, sauf que c'est un jeu infini, donc...
c'est ça, c'est juste bête comme principe, quoi. Finir un jeu, oui, c'est pas ça l'idée.
Ouais. Le speedrun est une manière de ne jamais finir
ses jeux. C'est vrai, ça n'a jamais terminé tes jeux.
Du coup, j'aimerais bien que les gens ils nous disent c'est quoi leur GOTY et pourquoi.
Tout à fait.
Mais vous sortez des vrais arguments, attention.
Ouais, pas des arguments de cinéphiles qui recommandent Le Parrain et Fight Club, s'il vous plaît.
Ouais, et vous ressortez pas des phrases toutes lues que vous avez vues dans je sais pas quel média. Attention, hein.
On connaît les gens, on connaît les médias, donc on va le repérer très vite.
On connaît les phrases marketing.
Ouais.
On connaît les entourloupes.
J'allais dire, pour les gens qui citent leur GOTY. Si t'es un GOTY qui n'est pas nominé au Game Awards, donc ça veut dire qu'il y a Baldur's Gate qui disparaît. Est-ce que t'aurais un autre GOTY?
Oui, parce que j'ai fait une liste.
Oh, habile!
J'ai fait une liste justement et en me basant sur les jeux qui m'ont marqué cette année et en reprenant et ma liste Steam, et j'ai pu et bah tu vois, ouais, j'hésite pour alors Baldur's Gate 3 on l'enlève. J'hésite beaucoup. J'ai trois prétendants pour la deuxième place du coup entre Racine, Chains of Sennar que j'ai fini il y a pas longtemps, mais est-ce que c'est parce que je l'ai fini il y a pas longtemps?
Ouais, c'est
ou
ça.
Ou Lakebug Legacies.
Ah, ouais.
Mais en vrai, j'y ai passé 80 heures.
Ah ouais.
Donc,
t'as beaucoup fait smouche-smouche les gens.
Ouais, ouais, ça a smouché, hein, je peux vous le dire. Bah, en fait, ils ont vite sorti un mode infini.
Oui.
Et à partir de là, j'ai essayé de débloquer tous les bâtiments, je voulais voir, et j'ai kiffé Lakebug Legacies, donc voilà.
Ok.
Et il y a Fortnite, pas loin derrière... Vraiment, c'est des jeux qui m'ont marqué en fait cette année.
Ouais, ok, ok.
Donc voilà, oui, c'était pas un piège, j'étais prête.
Incroyable.
Et c'était même pas préparé quoi, donc vraiment incroyable. Ouais. Donc voilà, bah faites pareil. Hein.
Voilà, faites vos listes. Les jeux qui vous ont marqué plus que Écoutez, c'est bon.
Et si vous avez mauvaise mémoire, utilisez Notion, c'est très bien. Je le fais aussi pour me noter tout ce que j'ai vu ou j'ai lu ou quoi, parce que sinon, j'oublie.
C'est hyper intéressant d'avoir cette liste. Et puis voilà, comme on a dit, le GOTY, c'est pas forcément un jeu qui est sorti cette année, donc voilà.
GOTY pour toutes les années, pour toutes les personnes. Et c'est ça qui est beau, putain. Wow. Le GOTY était dans nos cœurs depuis le début.
Bon, quelles sont vos actus de fin d'année / début d'année prochaine? Oui, j'ai volé ton rôle, Queenie.
Ouais, écoute, si tu veux, c'est collaboratif. Sauf que du coup, j'ai pas préparé ma.
Oh,
dites pas en premier.
Quand ça balance ses potes sous le bus, quoi.
Beaucoup de solidarité ici.
Bien sûr, toujours.
Franchement, chill, hein. Cette fin d'année, tranquille. Je n'ai pas fini mon marathon Rider.
Quoi?
Ouais.
Quoi?
Et je me dis que peut-être qu'il se finira jamais. Oh. Parce que il y a les remakes qui vont sortir bientôt. Enfin.
Ils vont refaire tous les remakes?
Non, les trois premiers.
Les trois premiers.
Mais ça fait des années que je suis prête, que j'attends. Donc voilà. Peut-être que. Vas-y.
Dites, c'était derrière les studios depuis le début, en train de leur envoyer des messages. Faites des remakes.
J'envoie des lettres de menace depuis des années. Hein.
Ça, mais en fait, c'était Dites. Dites avec une moustache. Bonjour. Quand est-ce que vous faites les remakes? Je suis en bas de chez vous.
Pour ma défense, il y a énormément de fans de la communauté de qui attendent. Voilà, hein, moi, dans les starting blocks.
Ok. Moi, je vous le disais tout à l'heure, il y a samedi soir, il y a la diffusion du podcast qu'on a enregistré avec Une Heure et des Pixels, où on va entendre le résultat de mon micro-trottoir que j'ai réalisé à Paris Games Week. Donc, moi, j'ai juste été là à l'enregistrement, c'est pas moi qui fais le montage, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Lundi, je serai dans Gâchette Gauche, mais là, je m'avance un peu, je sais pas du tout si cet épisode sera sorti avant.
Ouais. Il y aura peut-être des replays.
Il y aura sûrement des replays. Et ce sera peut-être même disponible déjà en format podcast. Ce sera peut-être même disponible en format podcast avant ce podcast.
Incroyable.
Alors qu'il est enregistré avant. Enfin bref. Et ensuite, jour de play, je crois que c'est le 15 décembre prochain. Et ensuite, je suis en vacances jusqu'à une potentielle prochaine saison. On ne sait pas, c'est la fin de la saison de jour de play. Donc, je vais respirer. Je vais être un peu en vacances.
Oui, on a senti quand t'as énoncé tous les trucs que c'était un peu la course.
Non, ça va. Et toi, Kit?
Alors moi, pour une fois, j'ai beaucoup d'actu à venir, pour une fois. Déjà, le 3 décembre, vous pourrez me retrouver sur la chaîne du collectif Mauvaises Herbes. Je vais faire un talk sur le point de vue aromantique et asexuel sur la romance et le sexe dans le jeu vidéo. Voilà, parce que en tant que
vous concernée
et que personne qui étudie la question, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, Mauvaises Herbes étant un collectif qui cherche à mettre en avant les professionnels du jeu vidéo marginalisés pour leur donner la parole et du coup parler de ce genre de sujet. Donc, pareil, hein, si le podcast sort après, c'est pas très grave parce qu'il y a les replays sur YouTube qui sont très bien montés en plus par Amy ou Gray ou Gwen, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Et je joue au théâtre à Lyon, si vous êtes de Lyon.
Vous êtes de Lyon.
14, 15 et 16 décembre. Une pièce où on parle de meufs qui ont tenté de faire un attentat contre note Darmanin parce qu'il s'appelle Darminan, mais c'est Darmanin. Voilà.
Darminan, on dirait vraiment un nom de Pokémon.
Ouais. C'est vrai, Darminan. Avec un dar et pour et des diamants.
Ouais, et il arrive et il te pique sans ton consentement.
Il te propose des diamants après, oui. En mode allez.
Oh, mais ça va. Regarde, j'ai mon statut politique. Et ensuite, vous pourrez peut-être me retrouver en février dans l'événement Sauf qui peut, qui a lieu au Sub à Lyon aussi, qui va être tout un événement pendant 3 semaines autour du jeu vidéo. Avec des soirées de playformance et surtout des soirées, j'en profite pour faire la pub ici, mais des soirées de playformance avec participation du public, dans le sens où vous pouvez dès à présent aller sur le collectif Sous les Néons et vous proposer pour vous tenter de faire une playformance sur un jeu, du coup une playformance de 10 minutes, mais c'est une scène ouverte à playformance et ça aura lieu les 3 jeudis soirs. Du coup, voilà, ce sera très cool. Et puis, il y aura des playformances avec des personnes habituées. Voilà. Donc, il se passe plein de choses, étonnamment. Et voilà.
Et voilà. Et fin février aussi, j'ajoute qu'il y a l'Indie Game Union qui revient.
Oui, c'est vrai.
Là, pour enregistrer un podcast.
C'est vrai qu'on fait ça aussi.
Bah, du coup, si le téléphone sonne, ça veut dire que c'est la fin du podcast. Merci, Kit, et merci, Bits. Merci, merci d'être venu aujourd'hui au Pôle Pixel. Merci. Pour enregistrer tant bien que mal.
On va voir.
Merci de nous avoir invités.
Bah, merci à vous d'être venus. On verra bien. J'espère qu'il se sentira bientôt. Merci toutes les deux, Et merci. Je sais pas quand sera le prochain épisode de Mangue Meuf.
À bientôt.
Donc je dis juste à bientôt.
Bon, vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre.
Comme dans ces vieux jeux vidéo.
C'est impossible que ce soit Mad Max.
Ouais, les filles jouent pas aux jeux vidéo d'habitude.
Je vous interdis de me vénérer. Je ne vous appartiens pas.